C'est pas du vent. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras, François Porcheron.
Bonjour, la grande île de Madagascar dans l'océan Indien abrite une biodiversité exceptionnelle, mais un rapide survol en avion révèle des collines pelées par la déforestation et des rivières taries par l'ensablement. Des stigmates qui nous rappellent que c'est aussi l'un des pays les plus pauvres du monde. D'où l'urgence de sensibiliser les populations à la nécessité de préserver leur environnement pour que les écosystèmes continuent à leur fournir de l'eau potable, les forêts, du bois et la mer, des poissons. Voilà pourquoi l'Académie RFI France 24 a formé des journalistes malgaches à la production d'émissions de radio sur l'environnement. Après un concours, deux d'entre eux ont coproduit des reportages avec nous, les journalistes de RFI. C'est cette aventure à deux têtes et à quatre mains que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Mamie Arisso.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes journaliste de M3 FM à Majunga et vous avez gagné le concours organisé par l'Académie.
Oui, je fais un reportage sur Kazou dans mon émission. C'est grâce à ce concours que nous faisons ensemble cette émission.
Et nous allons aller dans le sud-ouest de Madagascar.
Oui, nous allons alors dans la région des Tuléars voir l'ONG Blue Ventures qui travaille avec communautés locales, les Vezou, un peuple de pêcheurs, pour les aider mieux gérer les ressources de la mer.
Alors c'est parti, c'est un petit peu loin, il faut qu'on prenne l'avion de Tananarive à Tuléars et ensuite des heures et des heures de piste parce que les routes ne sont pas très praticables à Madagascar.
Ouais, alors on y va.
On y va.
RFI Tungasuom Nayetuya Madagascar.
Après plusieurs heures de piste, hein, mamie, c'était long pour venir ici.
Ouais.
On a fait beaucoup de voitures, mais ça valait le coup parce que le paysage est superbe. Hein, quand on regarde la mer, c'est très très beau. Il y a du turquoise, il y a des rochers. Et on est à Andavadoc, qui veut dire d'ailleurs pierre trouée. Hein, c'est ça?
Oui, ouais, c'est ça.
Et donc, on la voit, la pierre trouée, juste au large. Et on est venu ici, à Andavadoc, parce que c'est le siège de l'ONG Blue Ventures, qui existe depuis 2003 pour aider à la protection de l'environnement ici et impliquer les communautés dans la création d'une aire marine protégée et la protection de cette aire marine protégée. Et donc, mamie, là, nous allons rencontrer l'un des coordinateurs de cette ONG. Il est assis là, juste devant nous, il vient d'arriver. Bonjour, vous pouvez vous présenter?
Bonjour, mon nom c'est Faustinato, je suis assistant coordinateur au programme de conservation au sein de Blue Ventures. Bienvenue et je suis heureux de vous recevoir.
Merci beaucoup.
Quand est née l'ONG Blue Ventures?
L'ONG Blue Ventures a été créée en 2003. Ça a été débuté par une expédition, c'est-à-dire plus précisément des études scientifiques effectuées par des étudiants de sciences marines. Et ça a été développé après, des efforts ont été faits. Et actuellement, il y a de programmes de conservation communautaire qui a été débuté également plus précisément par l'essai de réserve marine en 2004. Ça continue sur le développement de plusieurs projets qui s'intègrent dans l'équilibre et puis dans la gestion de ressources naturelles marines.
Il y a combien de salariés chez Blue Ventures aujourd'hui?
En gros, il existe 60 de personnels qui se répartissent à Tuléars, à Andavadoc, à Belusumer et à Tananarive, dans la capitale.
L'ONG est située à l'ouest de Madagascar.
L'ONG a ses filiales sur toute la côte ouest de Madagascar. La plupart des écosystèmes marins côtiers sont localisés sur cette partie ouest, là où la plupart des communautés littorales, dont les communautés de pêcheurs vivent, qui dépendent essentiellement de ressources halieutiques.
Blue Ventures a beaucoup d'activités. Est-ce que vous pouvez présenter les différents programmes?
Avec plaisir. Il y a plusieurs programmes au sein de Blue Ventures. Il y a le programme aquaculture en tant qu'activité génératrice de revenus. Il y a aussi le programme pêcherie durable. Et il y a le programme SAFID qui se focalise sur la santé communautaire de la zone Velundjik. Et aussi il y a le programme éducation villageoise.
La santé, ça peut sembler à part par rapport aux enjeux d'environnement, mais en fait, tout est lié puisque vous travaillez notamment sur l'accès pour les femmes à la contraception.
En fait, ce programme a été émergé suite à une évaluation villageoise. Les villageois ont constaté que la croissance démographique fait partie de menaces permanentes sur la gestion des ressources halieutiques.
Merci Faustinaton, on va vous laisser parce que j'imagine que vous avez beaucoup de travail ici.
Je remercie l'équipe de RFI de diffuser cet effort à travers toute l'Afrique et pourquoi pas dans le monde entier. Merci et bonne suite.
L'une des recettes de Blue Ventures, ce sont ses volontaires. Une vingtaine arrivent toutes les 6 semaines des États-Unis, du Canada ou d'Europe. Ils vivent et dorment ensemble. Le menu riz et haricots est le même pour tout le monde. Et même si l'électricité s'arrête à 21h, les soirées sont animées. Kimédou vient de Belgique et elle arrive à la fin de son séjour.
Nous avons passé 6 semaines ici à faire de la recherche avec 10 autres volontaires. Nous avons appris énormément, mais nous avons aussi créé des liens vraiment uniques avec la communauté ici.
Alors en quoi consiste votre travail? Parce que c'est un vrai travail, hein. Vous n'êtes pas en vacances ici.
Notre travail commence tout d'abord avec la plongée. On a dû apprendre à plonger, à être confortable dans l'eau pour pouvoir après analyser la santé des récifs. Et donc on essaye de récolter le plus de données possible pour pouvoir après parler avec les communautés et leur dire voilà ce qu'on a trouvé, voilà pourquoi une réserve est importante et en espérant qu'ils vont pouvoir voir les bénéfices tangibles et directs.
Concrètement, vous êtes formé à reconnaître plus de 150 espèces de poissons ou de coraux qui sont sur les récifs.
On essaye de récolter le plus de données possible sur une longueur de 20 mètres et on va regarder quel type de coraux il y a et le type de coraux vont nous dire si un récif est en bonne santé ou pas.
Et globalement, dans ce que vous avez vu, les récifs sont en bonne santé ici?
Il y a quelques récifs où on voit beaucoup de coraux qui sont tout petits. Donc ça nous donne une bonne idée que dans les années à venir, on va avoir beaucoup plus de coraux. Mais aussi quand on voit des très très gros poissons ou des tortues, ça nous donne l'idée aussi que ce récif-ci est en bonne santé et qu'il y a une symbiose entre les coraux et les poissons.
Vous-même, vous faites des études en gestion de ressources naturelles, donc c'est bien sur votre CV d'être venu ici.
Pour mon CV, ce serait une bonne chose d'avoir fait cette expérience. Blue Ventures a une très bonne réputation et on sait qu'on contribue à la conservation des ressources marines à Madagascar.
Donc vous dites aux jeunes qui vous entendent éventuellement que c'est une bonne expérience de venir ici ou même plus généralement être volontaire, c'est une bonne expérience?
Je dirais même que c'est une très très bonne expérience. C'est un endroit vraiment unique, avec une communauté vraiment unique, avec un savoir-faire. Et de pouvoir faire cette expérience est vraiment extraordinaire. Et avec le peu de boulot qu'il y a maintenant pour les jeunes, c'est une alternative aussi d'aller trouver ces expériences, d'aller trouver quelque chose de passionnant.
Même s'il faut payer pour venir chez Blue Ventures, c'est 2 500 € les 6 semaines, donc c'est quand même assez cher.
C'est assez cher et beaucoup d'entre nous ont travaillé avant de venir pour pouvoir se payer ce voyage jusqu'ici. Mais j'ai appris énormément, des choses que j'aurais pas pu apprendre autre part. Et je repars en étant vraiment satisfaite de mon séjour.
On enchaîne avec une autre interview, mamie?
Ouais, on va voir Rosie Samb, présidente de l'association Vilutier.
Yeah.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Vous êtes dans le pays Vest, dans le sud-ouest de Madagascar.
L'un des objectifs de Blue Venture, c'est de restaurer la ressource halieutique, donc d'apprendre aux communautés à mieux gérer les ressources de poissons qu'elles ont à leur disposition, de poissons et de poulpes. Et l'un des hommes clés de ce dispositif, c'est vous, Samba Roger, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes président de l'association Velandriac, on dit comme ça ?
Ah oui, c'est le président de l'association Velandriac depuis en 2006 jusqu'à maintenant.
Vous avez donc une longue expérience. Alors cette association regroupe combien de villages ?
Il y a 25 villages qui se regroupent dans les zones de Velandriac. Et ces 25 villages sont divisés en trois sous-groupes, le nord, le centre et le sud.
Au nord, au centre et au sud de Andavadoac, le village dans lequel nous sommes aujourd'hui, parce que c'est là que tout a commencé finalement, en 2003, avec une gestion raisonnée du poulpe. Alors comment ça a démarré en 2003 l'aventure ?
Pour l'arrivée des Blue Venture ici, il y a des sensibilisations des gens de faire de la conservation marine. Donc en 2004, il y a des initiatives de villageois d'Andavadoc de faire, de réserver une site, ce qu'on appelle Anousiao, pour réserver pendant 6 mois.
Et ça a eu un résultat spectaculaire.
Ah ouais, il y a eu un résultat spectaculaire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui arrivent. Il y a aussi beaucoup de poulpes, le minimum de taille c'est 1 kg. Le maximum, c'est 8 kilos de les plus grands poulpes.
Et ça, personne n'avait jamais vu ça.
Avant, il y a plusieurs poulpes, mais petits. Le taille maximum, avant, il y a 1 kilo, le maximum. Mais après le jour d'ouverture, il y a augmenté à 8 kilos le plus grand poulpe.
Donc, suite à cette fermeture, non seulement il y avait des plus gros poulpes, mais il y en avait plus qu'avant. Donc, ceux des autres villages sont venus voir et ils ont eu envie de faire la même chose. C'est pour ça que plus de 10 ans après, aujourd'hui, il y a 25 villages qui font partie de votre association. Les 25 villages ont tous des zones qui sont fermées à la pêche du poulpe plusieurs mois par an.
Ah oui, il y a plusieurs sites à fermer. C'est 11 sites qui ferment en même temps et qui s'ouvrent en même temps.
Alors ces 11 sites sont fermés combien de temps et à quelle période ?
Les 11 sites se fermaient en 2 mois, de la période en mois de juin jusqu'au mois d'août au mois de septembre.
Donc comme c'est la période où il y a les petits poulpes, comme ça ils peuvent grossir et après quand ça réouvre en septembre, les poulpes ont grossi. Et puis pendant la période de ponte, c'est-à-dire à peu près novembre-décembre, là de toute façon il y a une fermeture au niveau national à Madagascar.
Ah oui, il y a des fermetures nationales à partir du 15 décembre jusqu'au 31 janvier. Donc ça, c'est parmi dans les périodes des pontes des poulpes.
Comme vous avez vu que ça marchait bien pour le poulpe, vous avez eu envie d'étendre ça aux poissons. J'imagine que ça a dû être difficile au départ de faire accepter aux pêcheurs, que ce soit pour le poulpe ou pour le poisson, de changer leurs habitudes. Donc vous vous êtes appuyé sur la DINA, qui est en fait une loi coutumière. Alors qu'est-ce qui se passe, par exemple, si un villageois va pêcher le poulpe à une période où c'est interdit ?
Il a payé l'amende à 100 000 ariary, ça c'est bien mentionné dans les dînes, et capturer aussi le produit, ce qu'il a capturé dedans. Donc, pour résoudre ce problème-là, c'est au niveau des réunions des villageois. C'est tout le monde qui arrive, qui fait punir ces gens-là s'ils entrent dans l'endroit qui a fermé.
Donc on est puni devant tout le monde, donc c'est la honte quand même.
Ah ouais, c'est la honte, c'est publié. C'est tout le monde qui punit ces gens-là.
100 000 ariary, c'est 33 euros, donc c'est quand même une amende assez importante. Et si on pêche le poisson dans la réserve, qu'est-ce qu'on risque ?
Le risque aussi qu'on peut pêcher dans les poissons dans les réserves permanentes, ça c'est plus haut de l'amende dans la réserve des poulpes. Il a payé des 100 000 ariary, et en plus, il a donné aussi un gibier.
200 000 ariary, ça fait à peu près 66 euros, plus un zébu, c'est sûr que c'est quand même dissuasif. Et quelles sont vos ambitions pour la suite ? Comment est-ce que vous voyez la suite pour encore améliorer la situation ou pour étendre les aires à protéger ?
Notre objectif pour l'avenir, c'est que les gens sont convaincus de protéger les ressources marines. Ils ne savent rien, ils ne voient pas de poissons. Pour éviter de ça, c'est mieux qu'on protège ensemble avec tous les pêcheurs dans les côtes pour avoir un bon résultat ensemble. S'il n'y a pas de poissons, s'il y a des conservations, tous les poissons sont disparus, tout le monde est mort de faim.
Anne-Cécile, viens avec moi pour discuter avec les femmes d'Andavadoac.
Voir si elles ont changé leur pratique dans la pêche du poulpe, c'est ça ?
Ouais.
C'est loin ?
C'est pas trop loin, mais il fait chaud.
C'est pas grave, on va marcher quelques minutes sous le soleil.
On y va.
On arrive.
Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter?
Bernardine.
Félicia.
Est-ce que ça a été difficile pour vous de changer vos habitudes?
Ça a été difficile de changer nos habitudes puisque avant ça a été libre de faire la pêche n'importe où et actuellement il y a une réglementation pour certains sites de pêche.
Est-ce que c'était mieux avant ou maintenant?
Avant, il y a beaucoup de poulpes et de poissons aussi. Mais l'existence des réserves, même s'il y a la réglementation, c'était bon également. Mais j'ai remarqué que durant les essais de 3 années successives, c'était bon. Mais actuellement, il y a quand même une diminution sur le capture.
Et est-ce que tout le monde respecte les interdictions?
Oui, nous suivons les interdictions puisque la plupart des ressources halieutiques se raréfient, donc nous suivons cette règle de gestion.
Est-ce que vous vous sentez plus responsable des ressources?
Oui, nous sommes actuellement responsables dans la gestion des ressources marines puisqu'il y a plusieurs formations que nous avons eues. Nous sentons également qu'il y a une diminution de production de poulpes, donc nous intervenons beaucoup dans la sensibilisation des villageois.
Est-ce que je peux rajouter une question, mamie?
Oui.
Est-ce que le fait de sensibiliser les villageois, ça vous a donné un nouveau statut en tant que femme?
Nous observons et nous remarquons que il y a une collaboration avec les villageois et il y a aussi une sorte de solidarité avec eux.
Comment on dit merci en malgache, mamie?
Misaut.
Misaut.
Misaut. Timisifisara.
RFI est à Madagascar et c'est bon ça.
Pour nous écrire, cepaduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Vous êtes dans le pays Vest, dans le sud-ouest de Madagascar.
Et grâce à l'Académie de formation RFI France 24, nous sommes en compagnie de...
Mami Harisu de M3 FM à Majunga.
Nous sommes toujours à Andavadoc, dans le sud-ouest de la Grande Île.
Nous continuons notre reportage sur les activités de l'ONG Blue Ventures qui aide les Vesu, un peuple de pêcheurs, à gérer durablement les ressources de la mer.
Et pas seulement, puisque Blue Ventures les aide aussi à diversifier leurs activités économiques.
RFI, qui nous manière de tous les autres.
Blue Ventures ne fait pas seulement de la protection de la biodiversité, mais elle aide aussi les communautés à se développer économiquement, notamment grâce à un projet d'aquaculture. Bonjour Aurélie Naudet.
Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice de ce projet qui est né quand ?
Il est né à peu près en 2007, donc avec des premières phases pilotes, mais il a vraiment démarré en 2009 concrètement ici. L'idée étant à la fois de réduire la pression sur les pêches et d'apporter des activités alternatives génératrices de revenus, donc à travers la culture d'algues et la production de concombres de mer.
Alors pourquoi le choix de l'algue et du concombre de mer ?
Alors ce sont des activités à la fois très faibles en termes d'investissement coût, des activités qui sont bien adaptées au milieu ici, parce que bon, alors les concombres de mer, on en trouve déjà naturellement dans le milieu ici, même s'ils ont été surexploités. Et c'est une production en termes d'aquaculture qui est assez simple, c'est pas une aquaculture qui est très sophistiquée. Donc c'est relativement facile d'implémenter ça auprès des communautés, à la fois sur les algues et sur les concombres de mer.
Et en plus, il y a des débouchés très importants.
Ce sont deux marchés qui sont très porteurs. Sur les concombres de mer, donc, c'est essentiellement du marché asiatique, principalement la Chine, Corée du Sud et Singapour, donc, qui sont très friands de concombres de mer.
C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il n'y en a plus quasiment à l'état naturel, parce qu'il est surpêché.
C'est vrai qu'on s'intéresse peu aux concombres de mer, finalement c'est un peu moins comme les dauphins, mais en fait c'est un animal qui est surexploité depuis des années. Quand on regarde un petit peu dans les archives, on s'aperçoit que dès 1900, en fait, on collectait déjà les concombres de mer sur la côte ici. Et donc ils en trouvent quasiment plus, et ça faisait partie des principales sources de revenus des pêcheurs vesous ici avec le poulpe. Et donc l'idée c'était aussi de, avec cette méthode d'élevage, on ne prend pas sur la ressource naturelle, et puis surtout c'est une source de revenus particulièrement intéressante pour les communautés.
Et les algues ?
Donc les algues sont produites pareil pour l'exportation ici, ce sont des algues rouges desquelles on extrait le carrageenan. Ce carrageenan, en fait, on le trouve dans quasiment tous les produits agroalimentaires. C'est un agent texturisant, en fait. Donc, on peut en trouver dans le dentifrice, on peut en trouver dans le Coca-Cola, on peut en trouver dans beaucoup d'aliments. Et pareil, c'est un marché où il y a beaucoup de demandes et qui fait vivre à peu près 30 000 familles dans le monde. C'est vraiment une agriculture qui est au niveau toujours familial, villageois. Partout dans le monde, c'est comme ça. Hein.
Et l'objectif, à terme, c'est que Blue Venture se retire de cette aquaculture et que les communautés s'approprient ce commerce.
Voilà, donc l'idée c'est que ces communautés deviennent totalement autonomes vis-à-vis de leur production, c'est-à-dire que chacun soit indépendant, qu'ils gèrent leur ferme comme une petite entreprise et qu'ils soient en mesure, parce que sinon on n'est plus à même de les soutenir, et puis tout simplement parce que pour la durabilité du projet c'est important qu'eux ils puissent être en mesure de pouvoir gérer cette production par eux-mêmes. Donc l'idée c'est ça, c'est de les former à devenir autonomes vis-à-vis du projet et autonomes vis-à-vis de leur petite entreprise, parce que finalement c'est vraiment ça, hein, c'est gérer une petite entreprise.
Et la personne qui est en charge des communautés juste à côté de nous, ça tombe bien. Bon, on va être honnête avec les auditeurs, ce n'est pas complètement un hasard. Josva Razavirasson, bonjour.
Bonjour.
Votre rôle, justement, c'est de travailler auprès des communautés pour les aider à développer ces projets d'aquaculture. Combien de villages ou de villageois sont aujourd'hui impliqués ?
Actuellement, on a travaillé avec environ 690 fermiers dans notre région, et surtout environ 14 villages.
Qui font du concombre de mer et des algues, moitié-moitié, ou tout le monde fait tout ?
On a juste 30 fermiers seulement qui ont réalisé l'élevage du concombre de mer. Mais la plupart, c'est de la culture d'algues.
La difficulté, j'imagine, c'est qu'il faut former ces villageois à cette nouvelle méthode de culture qu'ils ne connaissent pas.
Oui, bien sûr, mais ce qu'on est réalisé actuellement, on a de 8 environ de techniciens spécialisés dans le parti aquaculture. Ils vont toujours dans chaque village pour assister les fermiers, voir quels sont les problèmes à résoudre.
Et l'autre difficulté, puisqu'on parlait du fait que l'objectif, c'est qu'ils deviennent autonomes, c'est de leur apprendre à gérer un budget, à faire des économies, à réinvestir. Tout ça, c'est difficile, surtout que beaucoup d'entre eux ne savent ni lire, ni écrire, ni compter.
Oui, mais ce n'est pas tout à fait tout le monde, mais quelques-uns seulement qui ne savent pas de lire. Mais on a aussi d'autres stratégies pour former les gens qui ne savent pas de lire ou d'écrire. Donc, on arrive à trouver de la collaboration avec l'ONG CITE, qui sont basés à Tulare. Donc, on a déjà réalisé des formations successives pour pouvoir renforcer la capacité de ces fermiers de pouvoir gérer leur entraînement d'argent et surtout de pouvoir gérer leurs fonds propres.
On voit bien qu'il y a un véritable engouement, Aurélie Naudet. Donc maintenant, on a envie d'aller voir sur place ce que ça donne.
Oui, je vous propose d'aller à Tampoulouvé, donc un de nos principaux villages dans la baie des Assassins, pas très loin d'ici, qui produit à la fois des concombres de mer et des algues, et de rencontrer les fermiers qui pourront vous parler un petit peu de ce que le projet leur apporte et ce que ça a pu changer dans leur vie au quotidien.
Enfin, pas très loin d'ici, c'est quand même quelques heures de piste.
C'est vrai, c'est quelques heures de piste ou quelques heures de pirogue, mais les distances sont toutes relatives à Madagascar, donc pour nous c'est pas très loin.
Après plusieurs heures de piste sablonneuse au milieu des épineux et des baobabs, le canal turquoise du Mozambique sur notre gauche derrière les dunes, nous arrivons à Tampoulouvé, un village de 480 habitants à 175 km au nord de Tuléar. Et Mamie Arisoa, vous êtes en bonne compagnie.
Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter?
Je m'appelle Richard Badouali. C'est moi le président de l'association d'éleveurs de concombres de mer et des algues à Tampoulouvé, avec 50 foyers.
Comment les revenus des populations ont évolué?
Les revenus de la population ont changé, puisque la plupart des gens ont arrivé à acheter ou bien à renouveler leur pirogue. Ils ont la capacité d'acheter du riz et bien d'autres produits de première nécessité.
Est-ce que les pratiques de pêche ont évolué?
Oui,
la pratique de pêche a évolué dans le sens où, avant, la majorité de pêcheurs ont pratiqué des techniques de pêche destructrices telles que le retournement des coraux, l'utilisation de produits enivrants ou pêche par empoisonnement. Et grâce au projet aquaculture, les gens se convertissent en algoculteurs et puis en éleveurs de concombres de mer, ce qui a réduit ou bien de la diminution de pratiques de pêche dans le lagon sur le plan environnement marin.
Est-ce que cette diversification des activités a permis le retour du poisson?
Oui, exactement. La diversification des activités ont changé beaucoup de choses sur les ressources halieutiques puisque le stock du poisson a augmenté progressivement du fait que les gens pratiquent l'algoculture ainsi que l'élevage des concombres de mer dans le lagon.
Vous-même, vous êtes fermier. Que cultivez-vous?
Oui, je suis fermier et en tant que fermier, je cultive des algues. Et je fais aussi l'élevage des concombres de mer. Et c'est la société IOT ou l'Indian Ocean Trepont qui va assurer l'achat. Le prix est de 2500 à 5000 ariars la pièce, soit 1 euro à 1,50 € la pièce.
Dany
D'où viennent ces concombres de mer? Eh bien, pour le savoir, il faut prendre la route, 7 heures de piste, 160 km, et aller à Tuléar, où une entreprise, Indian Ocean Trepang, s'est lancée dans la production des juvéniles et la commercialisation des concombres de mer.
Radio. Radio de France.
Radio France Internationale, RFI.
Ah. Merci, monsieur. Merci.
Olivier Aval. Donc je suis spécialiste au départ de l'aquaculture de crevettes, déjà depuis 40 ans. Et puis très récemment, depuis 3 ans, j'ai intégré le projet IOT, Indian Ocean Trepang, pour concevoir et monter ce projet de production d'holothurie, de scabra, l'holothurie des sables, à Tuléar.
Il y a 2 usines aujourd'hui seulement au monde qui se sont lancées dans la production de juvéniles. Une en Australie, dont on ne sait pas grand-chose, et vous, ici, j'imagine que c'est parce qu'il y a un fort potentiel commercial.
Vu la raréfaction des produits venant de la mer par surpêche dans toutes les zones du monde, les différents pays se sont lancés dans l'aquaculture d'holothurie, dont la Chine bien entendu, mais avec des espèces tempérées. Et nous ici à Madagascar, nous avons lancé cette production d'holothurie scabra, puisqu'elle est originaire évidemment de Madagascar et elle est extrêmement demandée sur le marché.
Donc elle vaut assez cher.
Elle vaut assez cher, oui, c'est la deuxième espèce en termes de valeur sur le marché mondial. Et là, dans les espèces vivant à Madagascar, c'est l'holothurie scabra et celle qui a le plus de valeur. Donc nous avons la chance d'avoir la deuxième espèce d'holothurie en termes de valeur sur le marché mondial.
Et elle se vend combien, celle-là ?
Il se vend aux environs de entre 70 et 100 dollars le kilo, une fois qu'il est traité.
Vous en avez déjà mangé ?
Moi, j'en mange, oui, régulièrement. Et aussi, on le fait goûter à d'autres personnes, notamment des acheteurs, pour qu'ils puissent comparer avec des produits qu'ils ont, eux, goûtés en Chine, par exemple. Et jusqu'à présent, le produit que l'on a élevé ici, dans le cadre de IOT ou de Blue Venture, séché par nos soins et cuisiné par nos soins également, donne toute satisfaction.
Et quel est l'impact environnemental d'une production comme celle-ci, des petits juvéniles jusqu'à la fin du cycle ?
Pour produire cette espèce, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de pesticides, ni d'insecticides, ni d'engrais, et surtout aucun aliment artificiel avec lequel on nourrirait ces animaux depuis le début jusqu'à la fin. Ce sont des animaux qui se nourrissent avec le phytoplancton, avec les algues, avec le sédiment qu'il y a dans les fonds marins, et donc il n'y a pas d'impact en termes de rejet de la part de ces animaux. Un autre impact très intéressant, c'est que le fait de mettre des millions d'holothurie en production dans des enclos dans les lagons, naturellement, ces animaux vont pondre. Et donc, puisque c'est en mer ouverte, les œufs ou les larves, les embryons vont se propager dans le lagon et devraient, à terme, participer au repeuplement naturel de ces lagons. Puisque les holothuries ont quasiment disparu par surpêche de toutes les côtes, pas seulement de Madagascar, mais de très nombreux pays.
On est en Davadoa que vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, soit Bibigé.
Salam. Salam.
Retour en Davadoa, au loin des Blues Ventures accompagne les pêcheurs vises dans la gestion de leur environnement. La radio est d'ailleurs l'un de leurs outils pour sensibiliser les villageois jusque dans leur maison.
Nous sommes en fin d'après-midi, le soleil se couche sur Andavadoc. Dans une cour, des hommes jouent au domino. Juste en face, les villageois se pressent dans l'unique pièce sombre de l'une des maisons en bois. Et oui, il n'y a pas d'électricité. Ils viennent, comme tous les vendredis, écouter sur le poste à pile les émissions produites par Maosu Laatse. Bonsoir, qu'est-ce qui se passe là ?
Mais ça, c'est le groupe d'écoute. On va se préparer avant de diffuser les émissions théâtre radiophonique.
Et donc là, les hommes et les femmes sont rassemblés dans le salon d'une maison autour du poste de radio. Ils attendent la diffusion. C'est à 17h le vendredi. Ce sont des petites scènes de théâtre que vous écrivez, vous, et qui sont jouées par des acteurs. Ensuite, c'est envoyé à Morombe pour que ce soit diffusé ici, dans toute la région. Il y a plusieurs thèmes à chaque fois.
Oui, parce que un épisode, c'est l'ensemble de plusieurs chaînes. Par chaîne, on a un message, par exemple, le message avec la protection de l'environnement, la santé, et il y a aussi un message avec la santé de reproduction, planning familial et le VIH-SIDA.
Et aujourd'hui, la scène sur les enjeux environnementaux, c'est sur quel thème ?
Et aujourd'hui, c'est l'importance des récifs coralliens par rapport à la ressource naturelle.
Donc l'idée aujourd'hui, c'est de leur expliquer qu'il ne faut pas détruire les récifs coralliens parce que ce sont les nurseries des poissons.
Oui, c'est ça le message avec l'éducation environnementale. Yeah.
Et le principe, donc, c'est que les personnes écoutent la radio tous ensemble et après, il y a des agents communautaires qui discutent de ce qu'ils viennent d'entendre pour s'assurer qu'ils aient bien compris les messages.
Oui, l'agent communautaire fait une discussion après la diffusion des pièces théâtrales.
Et combien de villages, combien de foyers écoutent cette émission de radio ?
Jusqu'à maintenant, c'est 30 groupes d'écoute, 28 villages.
Bon, ben, on n'a plus qu'à attendre que l'émission commence.
Oui, on attendra cela. Merci.
Comme on ne parle pas malgache, je demandais à Faustinato de nous aider.
L'émission parle sur l'importance des mangroves ainsi que sur le récif corallien. En particulier sur les forêts de palétuvée ou le mangrove, il y avait un homme qui n'est pas habitué à assister à une réunion villageoise sur la sensibilisation communautaire, durant laquelle cette réunion a expliqué le rôle biologique et écologique de mangrove en tant que zone de nurserie ou de maternité de beaucoup d'espèces marines, ainsi que zone de protection pour le ruissellement de l'eau durant la saison pluvieuse, et aussi une zone de protection du littoral contre la grande marée vers la plage. Sa femme qui a assisté à cette réunion a expliqué à son mari qu'il serait important de raisonner la coupe de mangrove qui est essentielle dans les futures générations. Son mari a été convaincu de réglementer sa coupe de bois de palétuvier ainsi que d'autres pratiques de pêche destructive telles que le retournement des coraux, l'utilisation de poisons dans le lagon sur le complexe récifal et bien d'autres enjeux de pêche non conservatifs.
L'émission est terminée. Mansoa est en train d'expliquer aux femmes qui écoutaient la radio et aux quelques hommes aussi rassemblés ce qui va se passer maintenant, c'est-à-dire que l'agent communautaire va décrypter avec eux l'émission et essayer de répondre aux questions qui étaient posées dans cette émission et voir si leurs pratiques de pêche sont en accord avec les messages véhiculés dans l'émission. Mamie, la différence entre toi et moi, c'est que moi, là, je ne comprends rien parce que je ne parle pas malgache. Qu'est-ce que l'agent communautaire de l'ONG Blue Ventures est en train d'expliquer aux populations ?
L'association Blue Ventures donne le moustiquaire, mais les gens transforment en filets de poissons, c'est le problème.
Oui, transformer les moustiquaires en filets de pêche, c'est sûr que ce n'est pas une très bonne idée, surtout que les moustiquaires, c'est des petites mailles très fines, donc ça prend les petits poissons. Mansoa, la réunion est terminée là. Et vous avez à côté de vous l'agent communautaire qui a animé cette réunion. Vous pouvez nous la présenter ?
C'est Madame Macrine Cynthia.
Salama ?
Salama.
Alors, vous avez donc discuté avec la population après la diffusion de l'émission. Comment les gens ont réagi face à cette sensibilisation sur la mangrove et les méthodes de pêche ?
Généralement, je trouve que, vu les menaces que pèsent sur le mangrove et sur le récif corallien, la plupart des gens ont constaté qu'il y a une diminution des ressources en général. Et nous, on fait de cette sensibilisation à plusieurs reprises. Et par conséquent, certaines personnes ont saisi l'impact négatif ainsi que l'importance de la préservation des mangroves ainsi que des récifs coralliens. Et actuellement, la plupart des gens sont conscientisés sur cette importance d'arrêter ce qui est pratique destructrice.
Donc ça marche, ces émissions de radio?
Oui, effectivement, l'émission radio marche très bien puisque nous sommes un groupe d'écoute qui se réunissent dans une maison et nous sommes vraiment très concentrés à l'écoute de cette émission.
Merci.
Mamie, là, c'était la sensibilisation des grands à travers l'émission de radio. Et maintenant, on va s'intéresser au travail que Blue Venture fait avec les enfants.
Oui, tout de suite, on va au bureau des Blue Ventures pour voir comment les enfants sont sensibilisés aux enjeux de l'environnement. Bonsoir, monsieur le professeur.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous apprenez aux enfants?
Notre apprentissage se focalise essentiellement sur la sensibilisation environnementale, sur le savoir-vivre en tant qu'adolescent et aussi sur la vie quotidienne en général.
Sur la question d'environnement, qu'est-ce que vous leur apprenez?
En particulier sur l'environnement marin, dont je fais un exemple sur une thématique, en l'occurrence sur le récif corallien, sur la vie des espèces marines qui est très, très recherchée par le pêcheur, et aussi sur comment pêcher durablement les produits halieutiques. Il y a aussi la sensibilisation environnementale sur la partie côtière ou terrestre. Là, on les apprend l'importance de la mangrove et aussi sur la forêt épineuse, dont notamment le baobab, comment les entretenir, comment le faire revivre longtemps, quoi.
Quand les rencontrez-vous?
Les enfants viennent ici dans cette salle tous les samedis et durant cette séance, tous les samedis, on fait cette sensibilisation à différentes échelles. Ça dure 2 heures de temps.
Finalement, vous préparez le futur?
Oui, effectivement, nous préparons l'avenir de ces enfants et globalement, nous faisons cette sensibilisation pour les enfants ainsi que pour leurs parents, ainsi que avec le villageois de tout ce qui est aux alentours d'Andavadouk.
Merci beaucoup et bravo.
Nous vous remercions pour cette belle interview.
Le travail de l'ONG Blue Ventures est donc accepté et reconnu par tous les villageois.
Les ressources naturelles de cette région du sud-ouest de Madagascar sont entre de bonnes mains et j'aimerais bien qu'il y ait la même action dans ma région au nord à Mahajang.
C'est la fin de cette émission.
Merci à Cécile et François pour cet échange. Et j'ai un petit message pour les Mazingais. Monsieur Trabitsa, quand on fera une émission, Zala, à Manarakandrei.
Merci mamie, à bientôt.
À bientôt Anne-Cécile.